La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à tout le monde, on est encore là. On va lire notre brochure. On espère bien qu'il va titiller votre engrenage.
Ça s'appelle « Lettre depuis la maison d'arrêt des femmes » de Fleury Mérogis, qui date du 10 mai 2016. Au début du mois d'avril 2016, la mise en place d'un nouveau logiciel informatique de gestion de la détention au sein de la maison d'arrêt des femmes de Fleury Mérogis s'accompagne d'un durcissement des conditions à l'intérieur, avec notamment le passage de 2 à 1 seule promenade par jour. En réponse, pendant plus d'un mois, des prisonnières s'organisent pour refuser collectivement de remonter de promenade, tambouriner contre les portes le soir, écrire une pétition et des lettres. La lutte trouve de l'écho à l'extérieur, sous forme de harcèlement postal du directeur et de 2 rassemblements solidaires devant la prison. La lettre qui suit, écrite à la toute fin du mouvement par une de ses participantes, offre un bel aperçu des conditions de détention à l'intérieur de cette tôle. Mai 2017. Maison d'arrêt des femmes de Fleury Mérogis, le 10 mai 2016. Je suis arrivée à la MAF, maison d'arrêt des femmes, de Fleury Mérogis en 2006. Et en 2016, après un petit tour par d'autres prisons, je suis encore là. J'ai donc vu l'évolution, ou plutôt l'involution, de cette maison d'arrêt qui tombe en lambeaux depuis des années déjà. Douche pourrie, murs pleins de moisissures, morceaux du mur extérieur qui tombent sur la cour de promenade, dégradation matérielle qui vient s'ajouter à la dégradation psychique d'une administration malade de sécurité et de contrôle. Pendant des années, l'AP, l'administration pénitentiaire, a laissé pourrir cette prison parce que, soi-disant, de grands travaux de renouvellement étaient prévus pour 2012. Après, ça a été reporté jusqu'en 2014. Nous sommes en 2016, et après avoir fait des travaux à la maison d'arrêt des hommes et au centre des jeunes détenus, il semblerait qu'il ne reste plus de budget pour rénover la MAF. Cela ne les a pas empêchés de dépenser de l'argent pour renforcer les mesures sécuritaires. Barbelés, caméras, portiques, construction d'une nouvelle cage, impossible d'appeler ça une promenade, pour isoler les mineurs. Pour cela, oui, il y a de l'argent. La MAF de Fleury a été construite en 1968. C'est donc une prison ancienne. Elle fait partie d'un programme pilote qui prétendait tenir compte des caractéristiques spécifiques des femmes, dans l'optique hétéropatriarcale, en nous considérant comme des êtres faibles à protéger. Juste pour donner quelques exemples. Dans les quartiers des hommes, il y a des matons et des matones, mais chez les femmes, il y a seulement des matones. Les vêtements trop courts, un peu transparents, les décolletés ou même le fait de ne pas porter de soutien-gorge font l'objet de remarques et de prohibitions. Les activités proposées sont orientées vers des occupations dites « féminines », patchwork, tricot, couture, soins corporels, etc. Enfin, les parloirs avec les proches masculins sont doublement surveillés. Autre particularité, les fenêtres des cellules n'ont pas de barreaux. Peut-être nous croit-on incapables de tenter une évasion. Elles sont grandes, dégagées, ce qui permet de voir un grand morceau de ciel. Mais en revanche, ce système ne permet pas d'aérer la cellule parce que la fenêtre ne s'ouvre que de 10 cm en bas et en haut. À peine la place pour sortir l'étendoir. Cette maison d'arrêt est donc construite à l'ancienne. Une promenade avec de l'herbe, 2 ou 3 arbres. Il y a des grilles pour séparer la promenade des fenêtres des cellules. Mais elles ne sont pas assez hautes pour empêcher de s'envoyer un peu de tabac ou du café. Il y a encore des douches collectives et aussi des espaces où objets et histoires se sont accumulés au fil des années. Je dis cela parce que j'ai connu des prisons récentes, et qu'elles sont toutes en béton, grises, sans vie ni histoire, aseptisées, cloisonnées, froides, compactes, grillagées. Et ça fait une grande différence. Le fait est que la structure de la prison ne permet pas encore de nous isoler autant que l'AP le voudrait. Alors, comment empêcher le contact et la communication ? Comment mettre en place de nouvelles mesures sécuritaires? En limitant nos mouvements au maximum, en nous isolant de plus en plus en cellules. À mon avis, c'est dans cette logique que le système de promenade unique et les changements qui vont avec ont été conçus. À l'intérieur, nous sommes d'à peu près 260 femmes. Il y a une aile arrivante, 3 ailes pour les prévenus, Les prévenus sont les prisonnières qui n'ont pas encore été jugées. 3 ailes pour les condamnés, 1 pour les mineurs. Elles sont entre 15 et 20 à galérer dans un espace exigu, persécutées et fouillées sans cesse par les matones à la recherche de tabac. Les mineurs n'ont pas le droit de fumer. Avec un seul jour de sport par semaine et des conditions vraiment pénibles. Ça mériterait tout un texte à part. Et il y a la nurserie dans un espace complètement différencié. Dans chaque aile, il y a 20 ou 30 cellules de 9 mètres carrés, avec un lit superposé pour 2 personnes, mais aussi des cellules collectives de 6 lits. Être seule en cellule, pour celles qui le veulent, c'est considéré comme un cadeau que la paix te fait. Les cellules sont en très mauvais état. La peinture tombe, il y a de la moisissure sur les murs, il manque des carreaux au sol. Il y a quelques cellules dans lesquelles le soleil ne rentre jamais, ce qui les rend très froides et humides en hiver. Il y a un chauffage au sol, mais il ne marche pas dans toutes les cellules. D'autres, au contraire, sont orientées est-ouest, et en été, elles sont en plein soleil pendant des heures et des heures.
Dans les cellules, le mobilier est composé de 2 ou 3 armoires, 1 ou 2 tables, des fossés séparés par un rideau, un bidet et un lavabo. Il y a une seule prise de courant tout en haut, au plafond, ce qui nous oblige à mettre des rallonges bout à bout pour brancher le bouilloire, la plaque électrique, les postes des radios, la télé, etc. L'installation étant ancienne, ça pète souvent, à la moindre surcharge. C'est l'excuse de l'administration pénitentiaire pour ne pas installer des frigos et limiter l'accès aux appareils électriques, sèche-cheveux, lecteurs DVD, etc. Dans la cellule, il n'y a pas de système d'alarme ni d'interphone. Ce qui veut dire que si quelqu'un a une urgence ou fait un malaise, nous sommes obligés d'alerter nos voisines et de taper sur les portes tout ensemble jusqu'à être entendus par les matones qui peuvent prendre tout leur temps pour venir. Les repas sont distribués en cellules. Ici, ça marche encore à la louche. Composés des produits en boîte ou surgelés, ils sont répétitifs, ni varié, ni équilibré, et toujours en quantité insuffisante. Parfois, il y a de la salade ou un fruit. Ici, chacune mange seule en cellule. Impossible de partager un repas, ni même un café. Pour faire passer de la nourriture d'une cellule à l'autre, ça dépend toujours de la matone. Il n'y a pas beaucoup qui acceptent de le faire. Nous pouvons faire la cuisine en cellule avec des produits que nous achetons à la cantine, pour celles qui ont de l'argent, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de variétés, mais il y a pas mal de fruits et légumes, et de ces côtés-là, ça passe. J'ai vu pire, surtout dans les prisons semi-privées, où les prises explosent. Comme nous n'avons pas de frigo, en été, nous devons consommer tous les produits périssables en vitesse, ou bien regarder s'ils ne sont pas pourris. Pas de boissons fraîches non plus. En ce qui concerne l'hygiène, nous avons droit à 3 douches par semaine, mais celles qui vont à la salle de sport peuvent se doucher là-bas aussi. Dans mon bâtiment, les 2 ailes, à peu près 60 femmes, doivent se partager 6 douches. Les murs sont sales et le nettoyage inexistant. Le seul changement des dernières années a été de passer une couche de peinture sur les murs pourris. Mais maintenant, la peinture tombe et cela augmente encore la sensation de saleté. Il n'y a pas assez d'aération. Les dalles en plastique disposées au sol ont disparu. Nous avons sorti dans le couloir il y a quelques mois pour protester parce qu'elle était noire de moisissures et plein de petites bêtes qui couraient en dessus. Nous ne pouvons pas régler la température de l'eau et comme il n'y a pas assez de pression, il n'y a qu'un petit filet d'eau qui sort. Avant, il y avait un salon de coiffure géré par une surveillante et 2 auxiliaires. Petite note, les auxiliaires sont les détenus employés pour l'administration pénitentiaire pour assurer le fonctionnement de la prison, la cuisine, distribution des repas, l'ingérie, ménage, etc. Mais il y a 2 ans, le salon a été fermé et depuis lors, il n'y a plus de service. Alors, chacune se débrouille comme elle peut pour se faire couper ou tresser les cheveux. Suite à nos protestations des derniers jours pour dénoncer la dégradation de nos conditions de vie en général, il semblerait que la direction envisage de rouvrir le salon, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Tous les produits d'hygiène corporelle doivent être achetés, car ce qu'on appelle partout la trousse mensuelle, 2 rouleaux de papier toilette, un gel de douche, un paquet de mouchoirs, un peigne, une savonnette, des serviettes hygiéniques, une brosse à dents et un tubes de dentifrice n'est maintenant distribué que 2 ou 3 fois par an. Pour le nettoyage des cellules, nous recevons chaque mois, sauf quand il y a la trousse, un flacon de liquide vaisselle, un autre pour faire la lessive, une éponge à récurer et une dosette d'eau de Javel. Avant, il y avait un service payant de lingerie, mais il a été supprimé il y a des années déjà. Donc, nous lavons tout notre linge dans des petites cuvettes. Les plus gros de la journée, nous les passons enfermés en cellule. Quand il n'y a ni sport ni activité pour cause des vacances, ou week-end, annulation, etc., le seul moment que nous avons pour nous rencontrer, c'est la promenade. Les condamnés et les prévenus sortent dans des promenades différentes. Avant la séparation prévenu-condamnée en 2009, nous sortions l'ensemble, 1 h le matin et 2 h l'après-midi en horaire d'hiver, 3 h en horaire d'été. Après, l'horaire d'été a été supprimé et elles ont mis 2 tours de chaque côté. Le temps des promenades est compté dès que les matons démarrent les mouvements, alors la dernière à sortir peut perdre 15 à 20 minutes de promenade. Et pour rentrer, c'est pareil. Si la promenade doit finir par exemple à 11 h, la surveillante va appeler à 10 h 50 afin qu'à 11 h, tout soit fini. Avec le système de promenade unique, il y a des jours où nous passons 22 heures consécutives enfermées en cellule et cela a des conséquences à tous les niveaux. La promenade est l'espace des échanges où on peut se dépanner les unes les autres d'un peu de tabac, discuter avec les copines, passer un appel, marcher ou faire un peu de sport, s'allonger dans l'herbe, partager des bonnes ou mauvaises nouvelles, évacuer l'angoisse, respirer de l'air frais. Et les heures sont longues en cellule, surtout quand il fait beau à l'extérieur. La chaleur est insupportable et te laisse dans un état de fatigue physique permanente aggravé par le manque de mouvement. En cellule, tout passe de la chaise au lit, du lit à la chaise, et le corps en subit les conséquences. Il faut être très motivé pour faire du sport sur même pas de 2 mètres carrés, le seul espace qui reste dégagé. Psychologiquement, c'est très dur, car tu n'es pas jamais déconnecté. Toute l'activité se passe dans la tête, et même si tu es une personne qui aime lire, écrire ou étudier, il arrive toujours un moment où il faut que tu bouges, que tu communiques, que tu changes d'activité. Et en cellule, il n'y a pas beaucoup d'options pour cela. En plus, dans les couloirs, il y a constamment des mouvements et des bruits qui t'empêchent de te concentrer. Dès les premiers contrôles à 7 h du matin, la prison te tombe dessus. Les bruits des serrures, les claquements des portes, les matones qui se parlent entre elles en criant d'un bout à l'autre couloir, la sortie de la poubelle, la distribution des bons des cantines, du pain, du courrier. En une matinée, on peut ouvrir la porte au moins 10 fois. En plus, il y a des matons qui t'obligent à te déplacer jusqu'à la porte pour récupérer ce qu'elles ont à distribuer. Si tu ne te lèves pas pour prendre le pain, tu restes sans pain toute la journée. C'est comme ça à Fleury.
Sur les matons et le personnel pénitentiaire en général, que dire ? Qu'elles ont une apparence humaine et que cela nous confond parfois. On croirait qu'en tant que personne, elles peuvent raisonner, argumenter, être sensibles, comprendre des situations graves et agir en conséquence, avoir de l'empathie, mais non. Il semblerait qu'en signant le contrat avec l'État, elles échangent leur cerveau contre un règlement et lui jurent obéissance absolue. Les effets sont dévastateurs. Nous avons vu 1000 fois le processus de dégradation d'une jeune stagiaire, parfois arrivée toute fraîche et souriante, croyant venir faire du social ou l'autre extrême, la version apeurée et raide, venue protéger la société de toute cette racaille. Toutes découvrent très vite la parcelle de pouvoir qu'elles acquièrent avec l'uniforme, c'est-à-dire le pouvoir de décider si tu sors ou pas, si tu appelles, si ton attitude est suspecte et si tu dois être fouillé, si ton attitude est indécente et doit faire l'objet d'un rapport, si tu passes trop de temps sous la douche. En bref, le pouvoir d'imposer quelque chose à quelqu'un, et elles y prennent goût rapidement. Maintenant, elles sont l'autorité. Et qu'importe si la matone sort de sa poche une nouvelle règle sortie de son interprétation personnelle du règlement ou même de sa vision du monde personnel. Tous les bleus se couvrent systématiquement entre eux et c'est sa décision qui va finir par s'imposer. Pour nous, les DPS, détenus particulièrement signalés, le contrôle est total jour et nuit. Tous nos mouvements sont notés dans des cahiers au rond-point intérieur où nos photos sont affichées. Il y est noté aussi avec qui nous parlons en promenade, avec qui nous nous promenons, ce que nous faisons. La nuit, nous subissons des contrôles toutes les 2 heures. Les surveillantes allument la lumière, certaines d'entre elles font claquer l'œilleton, frappent parfois à la porte pour nous faire bouger. Cela pendant des années et des années. Nous sommes fouillés par palpation et nous devons passer sous les portiques détecteurs de métaux pour sortir en promenade, pour nous rendre au parloir famille et avocat, et même pour faire des photos. Nous subissons encore la fouille à nu à la sortie des parloirs, ainsi qu'à chaque extraction au palais ou à l'hôpital, et à chaque fouille de cellules. Nous avons imposé des limites et nous n'acceptons pas certaines choses, comme les demandes de montrer l'intérieur de la bouche, retirer le tampon ou montrer ses fesses. Mais ceci suppose toujours un moment de tension qui peut bien te gâcher ton parloir ou ta journée. Les matones contrôlent aussi le sac que nous emportons au sport, et parfois même la bassine pour aller à la douche. À tout cela, il faut ajouter le contrôle de toutes nos communications écrites ou téléphoniques. Ici, nous vivons sous la contrainte permanente, torturés quotidiennement. Oui, torturés, parce que cela n'a pas d'autre nom. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais j'espère qu'avec ça, vous pourrez vous faire une idée de comment nous survivons ici. Je ne vous ai pas parlé du mitard. Le mitard est le nom donné au quartier disciplinaire. Parce qu'ils ont fermé l'ancien et que nous ne connaissons pas encore le nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, peut-être que nous pourrons bientôt vous en dire quelque chose. Demain, les 4 d'entre nous qui avons été choisis comme bouc émissaire allons passer en commission disciplinaire à cause des blocages et nous ferons sûrement l'objet d'une lourde punition. Elles ont pris 14 jours de mitard chacune. L'une d'entre elles les a passées en confinement, c'est-à-dire enfermées dans sa propre cellule, face aux fautes de place au quartier disciplinaire. Une autre a été transférée dans une autre prison avant la fin des 14 jours. Son transfert était déjà prévu auparavant, mais l'AP l'a précipité pour faire croire à un transfert disciplinaire et mettre la pression. Marina a, elle, été transférée peu de temps après sa sortie du mitard vers le centre de détention pour femmes de Rennes où elle est actuellement. Rien de nouveau. Cela, nous le savions déjà. La paix ne tolère pas l'insoumission, et encore moins quand elle est collective. Elle nous impose des mesures de sécurité toujours plus strictes et veut que nous avalions tout sans protester. Quand nous ne le faisons pas, toute la machinerie répressive se met en route pour nous écraser. C'est le modèle régnant, obéir et se taire. Contre cela, il nous reste toujours l'immense plaisir de désobéir et de crier bien haut que non, on ne va pas tout avaler et qu'il n'y a pas de grillage ni de mur assez haut pour enfermer notre détermination. Salutations à toutes les rebelles. À bas les murs des prisons. Marina.
Hey, psst, c'est la brochure. La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.